Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dmandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir, bonne et heureuse année à vous tous. Nous venons d'entrer dans une nouvelle année, l'année 2017, après avoir dit adieu à 2016. Alors, ce passage d'une année à une autre est un moment particulier qui nous incite à nous poser un certain nombre de questions. Que retenir d'essentiel de l'année qui vient de s'écouler? Quel bilan tirer en termes d'évolution? En termes de réussite, disons, et d'échecs, comment ont-ils évolué les grands dossiers de la nation durant les 12 derniers mois que nous réserve la nouvelle année, qui n'a encore que 3 jours? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités. Ils sont au nombre de 4 et tous sont présents dans ce studio. Il s'agit de Mamadou Tchandjiboura, il est sociologue, c'est Daniel journaliste, c'est écrivain Clément Dembélé qui est analyste des stratégies politiques et Baba Dakono, analyste et chercheur. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bienvenue. Un bilan exhaustif de toute une année à l'échelle de tout un pays, c'est quasi impossible dans le cadre d'une seule émission. Nous allons donc nous intéresser à un certain nombre de sujets ou de défis que le Mali était appelé à relever durant 2016. Parmi ces sujets, la situation sécuritaire occupe une place de choix. Alors, que retenir de positif dans la lutte contre l'insécurité au Mali durant les 12 derniers mois? Il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Face à cette situation, comment est-ce que les conditions de force de sécurité ont évolué? On a beaucoup parlé du mort, on a beaucoup parlé d'autres choses. Donc, c'est de tout cela que nous allons parler avec nos invités. Alors, première question, on l'a dit, un bilan exhaustif, ce n'est pas possible. Nous allons quand même parler de l'essentiel. Alors, vous, Baba Dakono, qu'est-ce que vous allez retenir d'essentiel? Vous allez retenir comme événement qui a marqué l'année 2016 au Mali, surtout en termes de sécurité.
Je pense que même pour parler de l'essentiel, ce qui a marqué l'année 2016 en termes de sécurité, ça va être, je risque d'être un peu très long. Mais déjà, comme pour parler du positif, ce qui est à signaler, à noter, qui est très important, c'est le fait que depuis l'avènement du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir en 2013, il semble trouver le ministre de la sécurité qu'il faut. C'est vrai que la situation sécuritaire reste précaire au nord du Mali, mais quand même le ministre de la sécurité semble prendre cette question par le bon bout en termes d'organisation, même si on reste toujours dans la réactivité, mais également en termes de maîtrise, surtout au niveau de Bamako, des questions sécuritaires. À côté du positif, il faut quand même signaler que le nombre d'attaques criminelles en général n'a pas cessé de croître. On était déjà là-dedans en 2015. 2016 également a connu son lot avec beaucoup plus de développement qui résulte certainement des conséquences du fait que nous sommes dans un pays qui peine à sortir de crise et qui se retrouve lui-même au milieu de pays qui sortent de crise.
Alors, c'est Daniel, nous savons que vous êtes de ceux-là qui suivent de très près l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel?
Bon, moi, j'aimerais bien tirer plutôt des conclusions. C'est-à-dire, la première conclusion, la première observation que j'aimerais faire, c'est qu'il faut redessiner la carte sécuritaire du Mali. On ne peut plus actuellement, avec les forces de défense, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, l'armée, on ne peut plus assurer la sécurité. On n'a pas pu, on ne pourra pas en 2017.
Ça, c'est en termes de perspective.
Mais on ne peut plus assurer la sécurité des populations, des Maliens et des Maliennes. Il faut revoir les choses. Je pense que ce qui a été fondamental, parce que c'est un point de départ, disons l'intervention française de Serval. Nous sommes donc en janvier 2013, rapidement, on stoppe l'avancée des djihadistes vers le sud. Mais très rapidement, il n'y a pas eu de relève de cette intervention, puisque vous savez que après l'intervention Serval, on a eu une intervention plus large dans le Sahel, c'est-à-dire que les Français se sont dépêchés pour quitter le seul Mali, parce que ça, c'était quand même chaud, il n'était pas question pour les Français de mener les combats au sol, donc ça c'est quand même capital. La MINUSMA, la mission des Nations Unies, n'a pas pu prendre la relève des Français, ça a été un échec. Il n'y a pas eu assez, à mon avis, de coordination entre les forces armées maliennes les forces armées, les forces onusiennes et les forces françaises. Je pense que ça n'a pas du tout permis de stabiliser le nord du Mali, ce qui a fait que ça s'est métastasé un peu vers le centre. Nous avons eu quand même des Katibas qui se sont installés au centre du pays et puis qui sont venus au sud. Finalement, on a essayé de contenir la menace de ce risque à Bamako, parce que à Bamako intramuros, aujourd'hui, lorsque vous sortez, ce qui est admirable, c'est que vous sentez qu'il y a la sécurité, vous sentez même à 1h du matin à des carrefours, vous sentez des militaires, des policiers qui sont à moto, à pied, parfois également. Ça s'améliore, mais beaucoup reste à faire. C'est pour ça que je dis que pour 2016, ce qui serait 17, ce qui serait intéressant, c'est de redessiner la carte.
Mais monsieur Daniel, vous ne retenez pas les moindres actes que vous aurez impressionné en matière de lutte contre la sécurité?
Non. Vers la fin, oui, peut-être. Vers la fin, oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir des gens venir, ça fait une vingtaine d'années que je suis au Mali, je n'avais jamais vu ça, de voir des voyous venir devant une banque attaquer quelqu'un qui devait laisser de l'argent à la banque. En plus, quand vous regardez l'image qui a tourné pendant longtemps, c'est que c'était des professionnels. Ce monsieur était en civil, mais c'était un militaire qui avait fait le coup. Enfin, pas un militaire, quelqu'un qui avait reçu une formation militaire. Donc c'était quelque chose de prémédité, de forcément préparé. Donc de ce point de vue, ça m'a quand même frappé.
Clément Damelé.
Je serais un peu plus nuancé que M. Serge Daniel. Je pense que aujourd'hui, il faut, après l'intervention de l'armée française, il faut tenir compte d'un certain nombre d'améliorations qui se passent par la présence des forces de l'ordre. Vous savez, le Mali, c'est un pays instable. Donc nous sommes dans une instabilité totale au départ.
Qu'est-ce qu'on a posé comme acte pour que la situation puisse justement s'améliorer au cours de l'année 2016?
Alors, 2016, il faut parler de cet accord d'Alger, même si cet accord n'est pas encore effectif, même si cet accord n'est pas encore appliqué dans son effectivité, mais symboliquement, l'accord d'Alger prend son chemin et c'est un processus de paix qui prend des années, qui prend du temps et qui demande l'implication de tous les acteurs, mais l'acte est déjà posé, il faut l'encourager, il faut aller jusqu'au bout de ce processus. Il faut aussi tenir compte du changement de la mentalité des Maliens face à ce phénomène pendant 2016, à ce phénomène d'insécurité. Je pense que la population, à un moment, a compris qu'il faut essayer de s'impliquer plus ou moins. Je prends le cas de la région de Sikasso où j'ai été un moment, et la population commence à comprendre que l'insécurité n'est pas seulement une affaire de quelques personnes qu'on appelle les dirigeants, mais c'est une affaire de tout le monde. Et à mon avis, il y a une amélioration qui se passe, même si ce n'est pas vraiment effectif, même si ce n'est pas encore tangible, mais il faut, avec un regard plus profond, on se rend compte qu'il y a des choses qui se changent quand même, qu'il y a des choses qui s'améliorent.
Le sociologue Mavadou Tandjigoura.
C'est Fodier Tandjigoura. Voilà, mon nom c'est Fodier Tandjigoura.
Fodier, alors. Bien.
Je serai moins alarmiste que Serge aussi. Peut-être que il y a eu beaucoup d'actes d'insécurité ayant été commis au cours de 2016. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans nos analyses, nous devons aussi évoluer avec la nature même de l'insécurité en question. C'est vrai, si c'est les djihadistes, les mouvements djihadistes, aujourd'hui dans le centre, c'est plutôt des frustrations intercommunautaires qui a conduit ce qu'on appelle aussi aujourd'hui les affrontements ou même le fait de prêter allégeance à certains mouvements. C'est beaucoup moins à cause de la religion, mais beaucoup plus pour des frustrations multiséculaires qui existent dans ces zones-là. C'est vrai, c'est une insécurité tout de même, ça reste une insécurité, mais c'est d'une autre nature. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on appelle les djihadistes, les barbus, autres, peut-être qu'on les a vaincus d'une manière ou d'une autre, mais ils se sont phagocytés, ont donné une autre image. Donc il faut tenir compte de cette dynamique. Et il y a aussi l'insécurité résiduelle. Certains bandits ont profité, pour le cas des Gao par exemple, pour essayer de pratiquer leur activité de façon beaucoup plus intense du fait de la circulation des armes. Donc ça a changé de nature en fait, de nature en nature, donc ça change et ça évolue et ça rend difficile la maîtrise. Il l'a dit, par contre je suis d'accord, nos forces armées à ce niveau-là peut-être doivent changer de stratégie ou peut-être ne sont pas bien formées pour répondre à de telles menaces. Un autre défi dont moi je vais parler, c'est le défi migratoire. Hein? Et aujourd'hui, je pense que le Mali, en tout cas en 2016...
Alors, oui, nous aurons l'occasion de parler de ces problèmes. Alors,
je voulais dire que moi, je ne suis pas du tout alarmiste, mais moi, je vois les choses telles qu'elles se présentent. Il y a 2-3 ans, ça s'arrêtait à Mopti. Et puis, on sent quand même que ça se métastase vers le sud. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, j'ai un petit marché que j'aime bien, c'est Sanakroba. C'est à une trentaine de kilomètres de Bamako. Il y a eu une attaque il y a quelques semaines. Est-ce que vous savez que le centre de poste de péage de Sanakroba aujourd'hui est vide? C'est-à-dire que les travailleurs sont partis parce qu'on a tué 3 des leurs. Et depuis, il n'y a pas de garde. Je suis persuadé que la situation s'est dégradée dans les 6 premiers mois de l'année écoulée. Dans les 6 derniers mois, on a fait un effort. Je ne suis pas alarmiste, mais je dis ce que je ressens. Comme vous dites, ce que vous ressentez.
Alors, voilà. Baba Dakono, vous l'avez dit, certes, lui aussi, il faut trouver une nouvelle stratégie, mais je crois qu'il faut aussi équiper l'armée malienne. Est-elle mieux équipée aujourd'hui? En tout cas, je crois que savoir qu'elle s'est procurée des avions et avoir les policiers dans la rue, je crois qu'ils aussi sont mieux équipés aujourd'hui. Quel est votre avis?
Moi, je fais partie de ceux qui estiment, depuis fort longtemps d'ailleurs, que le problème de l'armée et même des forces de sécurité ne se résume pas au seul problème d'équipement, sans occulter ce problème, bien entendu. Mais je pense que c'est plus profond que ça et de nombreux observateurs ont lancé des thèses et des théories sur la question, notamment des problèmes de structuration. Mais ce qui est très important, je crois que ça a été souligné tout à l'heure, que la population a compris. La population a compris, mais il y a des limites très, très importantes qui, aujourd'hui, freine tous les efforts. C'est cette question de confiance aujourd'hui entre forces de sécurité et communauté. C'est très criard au nord, au centre du Mali, où nous voyons en toile de fond des questions soulevées, des frustrations, des revendications soulevées. Cette question de confiance aux forces de sécurité ou aux forces de défense. Donc au-delà de la question d'équipement qui revient tout à l'heure, qui est surtout dans le discours politique, il y a les problèmes de fond qui subsistent au sein des forces de sécurité et au sein des forces de défense. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'actuel ministre de la Sécurité semble avoir compris l'un des problèmes et le traite d'une façon qui produit des résultats? Parce que justement, à force de rester sous le discours d'équipement, on oublie les autres pans qui pourraient permettre
d'avancer. En quoi ces résultats sont tangibles, M. Dakono?
En quoi c'est tangible? En termes de couverture, j'ai pris l'exemple de Bamako parce qu'il est aujourd'hui difficile de dire qu'on a une avancée notoire dans les autres localités, mais en termes de Bamako, en termes de positionnement et en termes de réactivité des forces de sécurité, en termes même de présence, mais je ne parle pas de la réactivité face aux menaces, mais je parle également de la réactivité face aux différentes sollicitations. Quelqu'un a parlé de coordination. Vous savez que le Mali, comme beaucoup d'autres pays du Sahel, font objet de fortes sollicitations de partenaires internationaux et même souvent nationaux pour assister, aider un peu ces forces de sécurité maliennes. On voit une certaine amélioration dans la volonté de coordination du ministère de tutelle des forces de sécurité.
C'est Daniel, quoi qu'on dise, le problème d'équipement est un problème qu'on n'est pas négligé.
Non, il ne faut pas négliger le problème d'équipement. C'est évident, sans équipement, vous ne pouvez rien faire. Mais les équipements seuls ne suffiront pas. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a eu une attaque, notamment il y a 2 ou 3 mois, dans une localité du centre qui s'appelle Boni. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a découvert, parce que dans le feu de l'action, on n'a pas tous les détails. Ce qui s'est passé, c'est que la veille, vous avez des présumés djihadistes qui appellent l'imam, qui disent « nous, on vient le lendemain, on va tuer tout le monde ». L'imam prévient les forces de sécurité. Le responsable militaire qui était à Boni ce jour-là appelle sa hiérarchie lui dit « vous restez sur place, on envoie du renfort ». Il dit « moi, je ne vais pas rester sur place, et même si quelqu'un doit venir, je m'en vais ». Et la personne s'en va. Alors, mais passé en conseil de discipline, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Ce monsieur dit « oui, mais écoutez, nous sommes sur le terrain, nous voulons que les chefs soient des modèles ». Il faut, à mon avis, qu'au sein de l'armée des forces de sécurité, que ceux qu'on appelle les hommes du rang aient davantage confiance au supérieur, à la hiérarchie. Il faut que la hiérarchie soit un modèle de vertu, de courage, de formation également, parce que ce n'est pas tout. Vous voyez la particularité du Mali, un diplomate allemand que je tutoie me dit « mais votre pays, c'est l'Australie ». C'est-à-dire, en termes de distance, vous quittez Bamako pour aller à Gao, vous avez près d'un millier de kilomètres. Comment assurer comment assurer l'autonomie d'une armée, par exemple, sur un millier milliers de kilomètres, c'est plutôt difficile. Nous venons de loin. Donc c'est une armée qui est à reconstruire. Il faut les équipements militaires, mais les équipements militaires, à mon avis, seuls ne suffiront pas. J'ai vu que récemment, il y a des avions qui sont arrivés. D'autres avions de chasse, de combat sont annoncés. Vous pouvez avoir 200 avions de combat. Si vous n'avez pas le sol, si vous n'avez pas le terrestre, si vous n'avez pas une coordination entre les différentes forces, à mon avis, ça ne fonctionnera pas.
Il faut plus de militaires et plus de formation.
Hommes de métier, de formation et de détermination, à mon avis.
On se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Pour ceux qui nous suivent, nous évoquions donc la situation de l'armée malienne avant d'arriver à la pause. Maintenant, nous allons nous adresser à vous, Clément Dembélé. Monsieur Dembélé, ce problème d'équipement de l'armée, comment est-ce qu'il est traité selon vous? Est-ce qu'il est traité de façon idoine compte tenu de la situation sécuritaire du pays?
Il manque beaucoup. Vous savez, nous sommes dans une situation où l'armée a besoin d'énormément d'équipements. Il faut vraiment équiper cette armée, mais il faut aussi la former. Je suis d'accord avec mes prédécesseurs et que notre armée a besoin d'un... Il faut trois choses dans cette armée. Il faut d'abord une armée professionnelle, une armée professionnelle, c'est-à-dire la formation au sein même de l'armée. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut une armée qui est motivée. Il faut motiver au sein de l'armée, c'est-à-dire montrer aux militaires que pour qu'on s'engage, il faut que l'armée malienne cesse d'être un nid, un reposoir, une espèce de reposoir pour la lutte contre le chômage. Quelqu'un qui veut quitter le chômage, il va dans l'armée.
Vous attendez à une évolution positive au courant 2017?
Oui, bien sûr. Mais ça sera possible que lorsqu'il y a une vraie volonté politique au sein même de la gestion des affaires de l'armée. Il faut que cette armée soit restructurée non seulement dans le cadre de la justice et au sein même de l'armée. Parce qu'il y a des éléments de l'armée qui ont le sentiment qu'ils sont sacrifiés au profit d'autres. Donc il faut former, reformer, restructurer cette armée à trois niveaux. L'équipement, certes, et l'équipement qu'il faut. Je ne pense pas qu'il faut beaucoup d'avions. Je pense qu'il faut des équipements de renseignement. On en viendra là-dessus. L'armée malienne manque énormément d'équipements de renseignement. Une armée de renseignement aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est ce qui compte plutôt qu'on peut avoir 200-300 avions. Si on n'a pas un service de renseignement efficace, ça ne servira à rien parce qu'on peut même, on ne sait même pas où est-ce qu'on doit aller frapper, qui on doit frapper, pourquoi on doit frapper. Donc je pense qu'il faut voir ce qui manque dans cette armée, la motivation, l'équipement et la formation.
Faut dire temps du courant.
Bon, je pense que sans être spécialiste, je pense qu'on ne peut pas négliger l'équipement en réalité, les moyens d'anticipation. Vous avez beau être un bon patriote, un bon soldat engagé, il vous faut quand même des moyens. Je pense que la France, si elle a pu prendre le dessus sur ces gens-là, c'est en grande partie grâce aux moyens de surveillance. Donc on ne peut pas négliger, si notre armée est dotée, c'est une bonne chose. Mais pendant longtemps, comme il l'a souligné, c'était une armée de fonction, c'est-à-dire que les gens y entraient pour échapper au chômage et il y avait tout ce réseau clientéliste à l'intérieur et la crise de confiance, comme Serge l'a souligné, entre hiérarchie, entre les hommes des rangs et officiers.
Mais est-ce qu'on a senti un début de solution à ces problèmes au cours de l'année 2016?
Oui, mais on comprend qu'il y a eu beaucoup de formations. L'armée a reçu beaucoup de formations de la part de soutien de l'Union européenne. Ensuite, je pense que la hiérarchie, de façon générale, a pris conscience du phénomène, mais c'est des choses qui s'évaluent. On les évalue. On ne peut pas dire comme ça qu'il y a un résultat probant. Il faut peut-être des situations réelles d'évaluation. Ça, c'est un autre truc à part et où on peut se rendre compte sur un temps déterminé qu'il y a eu un changement de comportement par rapport à tel ou tel aspect. Donc je ne peux pas vous répondre de façon catégorique.
On a beaucoup parlé du MOC, des autorités intérimaires aussi, mais est-ce qu'on peut retenir ces deux facteurs parmi les éléments positifs au compte de l'année 2016, Baba Dakoun?
Je pense qu'il serait difficile de retenir le MOC puisqu'il connaît toujours des problèmes. C'était d'abord des problèmes de véhicules, ensuite après des problèmes de carburant. Et aujourd'hui, un problème qui est militaro-politique où des gens de Gao s'opposent à tort ou à raison, bien entendu, à ce que ce mécanisme soit opérationnel à Gao, qui était pourtant présenté comme pilote. Donc on va dire que même l'initiative pilote du mécanisme peine à décoller. Donc il est difficile de le mettre de façon positive. au compte de 2016. Mais je me permets quand même de revenir un peu sur le sujet précédent qui est la question de formation de l'armée. Je pense qu'en 2013, presque dans toutes les analyses, il était important et souligné que l'armée malienne aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, il faut réformer, je crois ICG a même titré, réformer ou rechuter. Donc l'impérieuse nécessité de réformer le secteur de la sécurité et par extension les défenses au Mali était absolue à l'époque et ça n'a pas changé. Et si vous voyez en termes de bilan par rapport à 2016 sur cette question, on voit que la réforme du secteur de la sécurité à cause des rivalités internes entre certains départements, à cause de l'influence politique sur la question, n'a pas effectivement décollé. Donc on est presque au même stade qu'on était depuis 2013.
Quand vous parlez du MOC, ça c'est le prélude, c'est un prélude au désarmement. Donc déjà, disons, ça c'est le processus de paix d'Alger, on n'en a pas beaucoup parlé.
Mais cette question c'est Daniel, oui. Est-ce que vous attendiez au fait qu'en ce début de 2017, les MOC seraient encore confrontés à ce genre de difficultés?
Moi j'étais sûr qu'il y aurait des difficultés, pour une raison essentielle, c'est que, et ça permet de reparler de ce problème de sécurité, c'est qu'on n'a pas posé dans le septentrion malien, jusque-là, on n'a pas posé le problème de la drogue. Je pense que la lutte contre la drogue doit être une affaire permanente, qui une affaire internationale. Si vous luttez, vous arrivez à lutter contre la drogue aujourd'hui dans le nord du Mali, vous réglez la moitié des problèmes. Parce que les différents groupes qui sont en présence sont alimentés par cette drogue-là.
Alors, qui doit lutter contre la drogue?
Ça, c'est la communauté internationale, c'est le Mali. Le Mali seul n'a pas les moyens de le faire. Il appartient à la communauté internationale de le faire. Et c'est l'une des faiblesses, à mon avis, de l'accord d'Alger. Si vous voulez sécuriser le septentrion malien aujourd'hui, vous êtes obligé de lutter contre la drogue, parce que si vous ne luttez pas contre la drogue, vous encouragez toujours l'insécurité, à mon avis.
Alors, Clément Damélé, les MOC, qui connaît toujours des difficultés, est-ce qu'il faut peut-être essayer de revoir les choses?
Il faut revoir les choses, mais je pense que le vrai problème qui se situe en plus du problème de la drogue, comme dit Serge Daniel, c'est aussi un problème de stratégie de relations communicationnelles. Vous savez, au Mali, on a un grand problème, et à tous les niveaux, de mettre en place une véritable stratégie de communication auprès des populations, auprès des acteurs qui sont impliqués dans le processus.
Non, pourtant, ce ne sont pas les cellules qui manquent, elles sont créées par
le
par
problème, c'est pas de multiplier les cellules ou de faire des réunions dans les bureaux, etc., etc. La communication, ça ne se décide pas ça ne s'applique pas dans un bureau. Il faut aller sur le terrain, il y a des acteurs qui sont, la population est là, et les acteurs qui sont impliqués sont là. Il faut véritablement communiquer sur pourquoi on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, comme on dit en sciences politiques, il faut qu'on pose toujours, et ceux qui font des écoles de journalisme en savent quelque chose, et la théorie des FAW, what, who, when, where, why, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a fait, quand est-ce qu'on va l'appliquer, comment on l'applique, et ça concerne qui, et quelles sont les conséquences. Il faut cette transparence dans la communication, et tant qu'on pose des actes au nord du Mali, que ce soit au nord du Mali ou au sud du Mali, les actes ne se réaliseront jamais tant que au préalable, il n'y a pas une véritable stratégie de communication. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, en plus de cette question de drogue, c'est aussi un grand déficit de communication qui fait que nous sommes dans une espèce de brouillard. Les gens, on n'a pas de vue à long terme, ni même pas à moyen terme, et qui fait que les gens se braquent. Les gens ont le sentiment d'être trahis, d'être dans une espèce de cacophonie ambiante où personne ne sait pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, comment il doit le faire et quel effet il a. Donc l'implication des acteurs dans le processus de paix ne peut se développer, ne peut s'effectuer que lorsque il y a la communication qui est menée par les différents acteurs qui sont impliqués.
Alors, Monsieur Tanjougoura, on l'a rappelé, le mécanisme opérationnel de coordination qui est donc qui se heurte à l'intransigeance de certains. Et vous, en tant que sociologue, comment est-ce que vous comprenez cela?
Bon, il y a d'autres qui n'ont pas intérêt à ce que ce soit résolu, ça c'est sûr. Vous parvenez à résoudre carrément le problème, non? Il y a des gens qui ne vont pas vivre. Donc il y a une culture même de violence, d'insécurité, d'anarchie, qui s'est installée depuis très longtemps et contre laquelle il est difficile d'en arriver à bout. Et Serge l'a dit, bon, la lutte contre la drogue, bon, il faut dire que la drogue, ça date de très très longtemps. Hein, on aurait pu en finir, mais je pense que le cas français, par exemple, on ne l'a pas évoqué dans le sens où ce demande ce que veut la France aussi, clairement d'ailleurs. Que veut la France? Parce que dans la tête de beaucoup de nos compatriotes, c'est pour venir les chasser et puis partir en ange, enfin en ange quoi, et puis repartir. Mais bon, tout le monde se pose la question, ça va se terminer comment? Et puis voilà, je pense aujourd'hui que ça se bute à beaucoup. Il y a la résistance de certaines populations, mais il y a aussi des coups bas que nous ne maîtrisons pas. En tout cas, personnellement, je ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de choses en dessous dont nous avons du mal à comprendre. Hein, voilà, et c'est un peu ça, notamment le rôle ambigu de la France qui, à elle seule, constitue quand même un cas à défricher.
Nous allons un peu parler politique. Donc, sur le plan politique, la tenue des communales en novembre est citée quand même comme un défi de détail que le pays a su relever. Est-ce qu'on peut appeler cela l'événement politique phare de l'année, Baba Dakoune?
Oui, je pense qu'on peut l'appeler l'événement politique phare dans la mesure où peu d'acteurs y croyaient vraiment, croire à la capacité du gouvernement de l'organiser et surtout que ce soit des élections organisées dans les circonstances dans lesquelles elles ont été organisées, c'est-à-dire on connaissait la situation précaire et que ce soit accepté, qu'il y ait une grande participation de tous. Mais bon, comme toute élection de proximité, il y a eu certainement des contestations au niveau tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des résultats. Donc une élection organisée avec ses limites, mais comme vous l'avez dit, on a tendance à penser qu'il y a très peu de choses à dire, et dans ces très peu de choses à dire, citer l'exemple des communales serait bien à point.
Moi, je pense également, c'est l'un des événements. Enfin, il y a deux éléments, à mon avis. Les communales, parce qu'à un moment, il fallait aller aux élections. On a repoussé en disant, oui, il fallait vraiment que tout le monde aille aux élections. Faire les élections sans telle commune, c'était accepter le fait que le pays était divisé, mais il fallait aller aux élections à un moment. Voilà. Donc, on a été aux élections, on a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Il fallait, à mon avis, aller à ces élections. Donc, c'est très important. Mais de l'autre côté, il y a des îlots sur lesquels on a eu des élections communale également. Ça, c'est très intéressant, notamment au Nord, où on a vu quand même que le taux de participation était acceptable, si vous voulez, et que le parti au pouvoir était plutôt mis au pilori. Par exemple, vers Intilit, je crois, par exemple, on a vu, par exemple, des contestations monstres, c'est-à-dire le parti au pouvoir qui a remporté un siège de député, je ne sais plus tellement, mais on sentait quand même qu'il y avait des magouilles, disons les choses clairement. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a eu quand même, à côté des communales, il y a eu ces élections, des partielles qui ont été organisées, qui prouvent que c'est la vitalité de la démocratie, c'est aussi les élections.
Mm-hmm. Clément Damelé.
Oui, on peut le citer comme un événement majeur, mais je pense que dans cette élection communale, il faut aller à l'intérieur même de ce qui s'est passé et qui est très marquant dans notre histoire. Vous savez, il y a un taux de participation des femmes comme candidats et qui a été très considérable. On peut le comparer seulement qu'en 1994. Mm-hmm. Et le taux de participation des jeunes à cette élection de 18 à 35 ans est très remarquable. Donc je pense que c'est là où il faut voir les choses, parce seulement qu'on a réussi à organiser les élections, je ne trouve pas que ça soit applaudi, parce que de toute façon, le Mali a intérêt à le faire si on veut garder notre intégrité. Donc on n'a pas le choix, on ne peut pas continuer à repousser. Donc je ne dirais pas félicitations parce qu'on a organisé les élections communales, je dirais merci pour le fait que les femmes commencent à participer à la vie politique et les jeunes. Et je termine là-dessus sur un phénomène qui est très frappant lors de cette élection communale, c'est qui est très intéressant, c'est aussi la participation des journalistes. Nous avons vu toute une armada de journalistes qui s'est intéressé à cette élection par des contestations, par des contrôles, par des articles très virulents parfois, mais qui a permis plus ou moins d'informer, donc de former, de sensibiliser, de savoir ce qui se passe à l'intérieur même de ce que M. Charles Daniel appelait tout à l'heure les magouilles. Ça s'est fait, ça s'est passé, mais il y a une nouvelle race de journalistes qu'on voit à partir de cette élection communale qui est très, très salutaire pour la démocratie malienne, pour l'évolution de la mentalité malienne. Donc sur ce point-là, je pense que c'est...
Je ne veux pas vous contredire, mais généralement, dans une élection, sont les jeunes et les femmes qui votent le plus généralement. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Hein, non, cette fois-ci, quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez les chiffres, M. Charles Daniel.
Je les ai.
Vous l'avez. Oui. Si vous pouvez me donner les chiffres de la participation des femmes à cette élection des candidats.
Je veux dire que les femmes et les hommes...
Non,
il n'y a pas,
pour la première fois.
Ce n'est pas un débat contradictoire.
Non,
mais
je veux dire que ce n'est
pas nouveau.
Mais c'est pour la première fois depuis 90 que le taux de participation des femmes candidates au Mali est le plus élevé.
C'est le plus élevé.
Et le taux de participation de jeunes candidats de 18-35 ans est le taux le plus élevé pour la première fois.
Donc, une parenthèse.
C'est très intéressant. Il faut le dire.
On va demander à Baba de prendre
c'est quelque chose qui me paraît très, très intéressant parce que ça montre que les jeunes, la jeunesse malienne cesse d'être un bétail électoral, mais la jeunesse malienne commence à prendre conscience qu'elle a sa part à jouer dans le processus d'élection à se présenter comme candidat. Alors, et les femmes également.
Vous avez
les statistiques en ce qui concerne les femmes, je ne me suis pas intéressé, mais en ce qui concerne les jeunes, je me suis particulièrement intéressé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que moi, c'est plutôt alarmant ce qui s'est passé parce que le nombre de candidats jeunes dépassait largement tout ce qui a été organisé dans ce pays. Mais le nombre de candidats non élus jeunes aussi, le nombre de jeunes élus reste à peu près la même chose comme toutes les années. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, les jeunes doivent faire beaucoup plus de travail et qu'on doit réfléchir vraiment sur le jeu politique dans notre pays. Parce que tant que ce jeu politique n'a pas changé, il ne peut pas y avoir de véritable émergence de jeunes acteurs politiques.
Le monsieur Zambélé n'aime pas les vieux.
Non mais je suis vieux aussi, monsieur Cheikh Daniel.
Sidio Tamani, dans un instant, nous nous retrouvons pour la suite de ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
À présent, nous allons entendre les sociologues se prononcer sur l'importance de la tenue des communales en novembre. C'était donc, je le rappelle, en novembre dernier. Monsieur Tanjogura, cet événement, comment est-ce que vous appréciez sa portée?
Bon, je n'ai pas de truc absolument nouveau, mais juste à ce niveau-là, et il faut déjà être content quand ça s'est tenu. Voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas employer beaucoup de rigueur. C'est vrai, il n'y a jamais eu d'élection vierge de fraude dans notre pays. Ça, il faut le dire.
Hein. Non, celle-là était une élection particulière en ce sens qu'elle n'était pas évidente compte tenu.
Absolument, juste, tout à fait. C'est pourquoi je pense qu'à ce niveau-là, on doit déjà être heureux que les élections se soient tenues de façon plus ou moins correcte, quoi, comme on le voit très généralement. Et donc, à ce niveau-là, les taux de participation, dans tous les cas, il y a toujours des commentaires à faire tout autour de ça, mais ce n'était pas évident. On a procédé à beaucoup d'atermoiements, on a vu, à la limite, ce n'était même plus évident. Donc, je pense que le défi a été relevé à ce niveau-là, du fait que les élections ont été tenues. Mm-hmm. C'est mon point de vue.
Baba Dakono, il y a quand même cet olé suscité par le dossier de la réadmission de certains immigrés. Il y a eu l'occupation du consulat quand même du Mali en France. On parle d'un sit-in dans la région des Kayes. Le dossier va-t-il encore longtemps rester d'actualité, même en cette nouvelle année 2017?
Je pense que ce soit ce dossier ou d'autres qui vont certainement émerger, je suis d'accord avec un des membres du gouvernement qui dit que c'était un faux débat, mais le faux débat, ce n'était pas forcément les débatteurs qui y ont amené, mais c'est peut-être le gouvernement également qui a amené.
Monsieur Dakono, dites-nous, après toutes ces explications, les différents ministres sont montés au créneau, il a été démontré finalement que c'est... Ce fameux accord n'a pas été signé pourtant.
Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que ce débat a relevé trois choses. Tout à l'heure, le professeur Clément parlait de communication. Je pense que c'est peut-être trop facile, chaque fois on accuse la communication, mais il est difficile de communiquer quand on gère dans l'opacité. C'est-à-dire qu'il faut que la gestion puisse être transparente et ça facilite la communication, sinon on va passer, comme il le disait, tout le temps à communiquer sur la communication. La deuxième chose, c'est que les autorités doivent prendre conscience de la rupture de confiance entre elles aujourd'hui et les citoyens. C'est très, très important. Et la troisième chose, c'est la question de redevabilité. On a parlé de vitalité de notre démocratie, mais tant qu'on ne va pas replacer la redevabilité au cœur de notre processus démocratique, on verra de telles circonstances tout le temps, tout le temps.
C'est Daniel, pourquoi essayer de gérer dans l'opacité sans, si l'on est sûr de ce que l'on fait?
Est-ce que, je ne sais pas s'ils géraient ça dans l'opacité, mais à mon avis, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Je pense que dans cette affaire, le gouvernement s'est fait piéger, tout simplement. Pourquoi? Parce que M. Berskondes, qui arrive au Mali, il arrive au nom de l'Union Européenne, il signe un communiqué conjoint avec le gouvernement, il piège d'abord le ministre des Affaires étrangères en lui disant, écoutez, on va montrer le communiqué à la presse, il y a eu des photos, comme si c'était un trophée. Le ministre néerlandais repart, et au nom de l'Union Européenne, il tweet tout de suite, nous avons signé un accord avec le Mali. Le Mali dit non, ce n'est pas un accord, c'est un communiqué. On demande à l'ambassade des Pays-Bas de rectifier. L'ambassade rectifie en disant ce n'est pas un accord au sens international du terme, mais bon, ça veut dire que c'est quand même un accord. Disons que le gouvernement s'est fait avoir. Il n'y a pas eu un accord en termes juridiques signé. Mais à partir du moment où vous signez un document dans lequel on retrouve un élément qui avantage les autres, bon, disons que ça s'est mal passé en termes de communication et que maintenant le gouvernement peut, ce que le gouvernement doit pouvoir dire aujourd'hui, c'est que nous rejetons même le communiqué que nous avons signé.
Mais n'est-ce pas étrange quand même de badiner, de se laisser avoir lorsqu'il s'agit
de
dossiers aussi
sensibles. Chaque pays a des stratégies, parce que vous avez quand même des élections qui vont se dérouler bientôt en Europe, et donc ils ont besoin de ça pour l'extrême droite, parce que vous avez une extrême droite qui monte là-bas, et eux, M. Condé, c'est son parti de la droite, il a fait une coalition avec un parti de l'extrême droite, il a besoin de montrer dans son pays, par exemple, que voilà, le Mali a accepté de signer un accord pour qu'on retourne au pays les Maliens qui sont en situation irrégulière. Vous avez parlé, on va parler de migration, j'espère, tout à l'heure, mais vous avez un véritable problème aujourd'hui. C'est une politique, en fait, globale, à mon avis, que l'Afrique ou la CEDEAO doit avoir vis-à-vis de ces immigrés en situation irrégulière dans les pays européens.
Clément Damelé.
Alors, je vais être très bref parce que sinon je vais devoir répéter ce qu'ils ont dit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et le problème, c'est que en dehors de ce qu'il a dit qui se passe en Europe, vous savez, l'extrême droite gagne du terrain, ce sont les nationalistes, et aujourd'hui ils ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de montrer qu'ils peuvent venir en Afrique et faire signer des accords pour faire répartir les Africains chez eux, mais aussi que ce soit la droite en Europe ou la gauche en Europe a besoin quelquefois aussi de faire cette forme de prostitution politique, de dire que voilà, nous sommes pour les étrangers, mais il y a des limites, et même des fois nous essayons aussi de faire la politique de l'extrême droite pour montrer que l'électorat de l'extrême droite, on va essayer de gratter là-dessus. Cela dit, si on quitte un peu la politique européenne et qu'on revienne chez nous, M. Charles Daniel disait, notre gouvernement s'est fait piéger. Mais au-delà du piège, il y avait une réaction à adopter, un comportement politique à adopter qui n'a pas été fait tout de suite à chaud, et que la politique a besoin de ça. Vous savez, la rumeur, c'est l'ennemi de l'information. Et quand il y a la rumeur avec les ondulations, il faut réagir avec une véritable stratégie d'information pour lisser cette information. Et ceux qui savent en matière de communication, les journalistes, ils savent très bien de cela. Vous passez une rumeur le matin et l'après-midi, ça atteint un niveau tellement énorme que si vous avez à réagir tout de suite après la rumeur, vous avez peut-être la chance d'agir. Nos dirigeants, et je termine là-dessus, doivent comprendre une chose, c'est que le monde a évolué, le monde a changé. J'ai l'impression souvent que nous sommes au Mali et que le monde évolue et que de temps en temps, on ouvre les yeux, on voit que voilà, le monde a évolué, on se rend compte très tardivement. Pourquoi ne pas utiliser aujourd'hui des outils de communication? Alors, ce qui a fait le mal dans cette histoire de communiquer conjoint, d'accord, signé ou pas, ce sont les réseaux sociaux. Et pourquoi nous essayons pas de mettre en place un système d'information fiable à partir de ces mêmes outils de communication qui est l'Internet, qui est même le téléphone portable? Et si on avait réagi à temps, je pense qu'on ne serait même pas, parce que ça relève ce que les journalistes appellent la rubrique du chien écrasé, mais qui fait très mal aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu maîtriser la communication.
Bon, franchement, signé ou pas, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est une question que je connais plus ou moins pour avoir travaillé là-dessus pour ma thèse, mais ce qui est important, le président Atete avait été confronté à ça. Et les migrants ont la mémoire encore fraîche, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ATT, quand ils voulaient signer ça, ça a été un brouhaha général. Il y a même eu des marches de Quai de la Gare jusqu'à Bercy. Ensuite, il y a eu des pressions ici également. Et donc, on pense que c'est à peu près la même chose. Et, si vous voulez bien, ils ne se mettent pas dans tous ces communiqués conjoints, accords. Comme
il n'a pas signé.
Non, il n'a pas signé, pas du tout, oui, bien sûr. Et suite à son refus, d'ailleurs, un certain nombre de projets n'ont pas été renouvelés, parmi lesquels le CIGEM et puis bien d'autres projets. Et puis notre master migration qui devait ouvrir aussi, donc ça n'a pas été signé, ça n'a pas vu le jour. Et donc c'est pour vous dire qu'ils ne se mettent pas à ce niveau-là, signé ou pas. Ils adoptent une stratégie de défense, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, comme ils l'ont eu à signaler, dans beaucoup de pays, l'extrême droite joue sur la peur des Européens aussi. L'immigration, c'est une menace. Si on regarde le Front National en France, le MNR en France, de Philippe de Villiers par exemple, la Ligue du Nord en Italie, ou encore l'UDC en Suisse, tous ces partis de droite joue sur la peur des Européens pour dire, bon, attention à l'envahissement. Alors qu'on ne signale pas que l'Allemagne, par exemple, a joué un effet opportuniste. Ça a arrangé l'Allemagne, bien sûr, l'arrivée des migrants pour financer les retraites. Il y a un certain nombre de secteurs, mais ça, on ne le dit pas. Hein? Mais quand il s'agit des bons migrants, parce qu'il y a des bons et des mauvais migrants, voilà, ceux qui n'apportent rien, et puis ce sont des mauvais migrants qu'il faut renvoyer chez eux, parce que les 30 glorieuses, on n'en a plus, c'est fini. Voilà, donc il faut renvoyer les migrants chez eux.
Mais parlant de l'année 2016, on ne peut ne pas évoquer quand même le procès d'Amadou Aya Sanogo de 17 cours accusés. Peut-on déjà se glorifier de la tenue de ce procès qui doit quand même se poursuivre au courant 2017 avant de le voir aller à son terme, Baba Dakoune?
La tenue du procès, je ne sais pas, mais ou l'annonce du procès, parce que le procès, véritablement, si on voit les motifs pour lesquels le procès a été renvoyé au premier trimestre 2017, on se demande ce qui a été fait pendant tout ce temps. Oui, peut-être le ministère de la Justice pour la capacité à mettre en place tout le dispositif pour entamer le procès, mais dans le fond, véritablement, on se rend compte qu'il y a eu très peu de travail sur ce dossier, notamment au niveau du procureur.
Il y a eu le courage d'annoncer la tenue du procès, évidemment, puisque il y avait la défense, il y avait la partie civile, toute la cour était là, Sanogo était là, c'était très intéressant de les voir. Moi, j'étais d'ailleurs à Sikasso. Ça m'a frappé, on avait vraiment l'impression que chacun voulait dire sa part de vérité. Donc c'est quand même un courage hein, de dire, nous allons tenir le procès. Mais avant le procès, dès l'annonce du procès, moi, j'étais parmi ceux qui pensaient que le procès n'allait pas avoir lieu. Je ne dirais pas pourquoi directement ici. Il y avait des éléments qui montraient qu'on gagnait peut-être du temps hein, pour des procédures, du droit, etc. Mais en même temps, pour montrer qu'on n'avait pas peur, mais ce procès ne pouvait pas avoir lieu dans ces conditions parce que les éléments nécessaires pour la tenue d'un procès équitable n'étaient pas, à mon avis, réunis.
Clément Damelé.
Alors, je fais partie de ceux qui pensent le contraire. Je pense que ce procès aura lieu. Et ce procès aura lieu, ça en va pour la crédibilité de l'État malien. L'État a annoncé ce procès qui a commencé et pour des raisons de procédure judiciaire, je ne suis pas spécialiste, et le procès a été suspendu, a renvoyé au premier trimestre 2017. Ce procès aura forcément lieu et ce procès se terminera. Je ne peux pas faire de pronostic, j'en suis pas capable, mais ce procès aura lieu pour des raisons. Ça montre. Moi, je vais beaucoup dans la symbolique politique. Ça montre que, désormais, au Mali, un dirigeant est justifié. Vous savez, après Moussa Traoré, on n'a pas eu un autre cas d'un haut dirigeant malien qui est jugé publiquement. Donc, je pense que ce procès est une thérapie pour le peuple malien. C'est aussi un appel, un signal très fort à l'égard des dirigeants maliens, voire africains, parce que ce n'est pas qu'au Mali, on voit aussi en Côte d'Ivoire ce qui se passe, mais quelque part, que ce procès ait débuté déjà, et je rejoins M. Serge Daniel là-dessus, c'est une très bonne chose. Et son effectivité sera une excellente chose parce que ça montre désormais que le peuple malien a encore une fois grandi et que les dirigeants savent désormais qu'ils sont justiciables.
Faudier Tendugra.
Bon, je salue d'abord le fait que le procès se soit tenu. C'est en soi une avancée. Mais bon, quant à l'issue, je ne sais pas. Peut-être si on retient la responsabilité morale, je ne vois pas réellement ce qui va réellement être l'issue. Bon, ce que tout le monde attend, les parents des victimes, etc. Parce que, après tout, moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai bien écouté et puis lu la presse. Hein. Donc, à part peut-être la responsabilité morale, bon, maintenant, remonter les faits réels jusqu'à Amadou Aya, bon, c'est peut-être un mécanisme assez complexe, Et donc, je ne sais pas, peut-être un non-lieu.
Quelle perspective pour le Mali en 2017, voilà qu'on en deux mots.
En deux mots, ça va être difficile, perspective 2017. Je pense que quand on prend l'annonce du 1er janvier du président de la République, ça sera une année peut-être politiquement très très chaude parce qu'on parle de réforme constitutionnelle. C'est très très lourd. On espère qu'ils auront la capacité à défendre ce projet. Donc ce sera et la préparation également de 2018.
C'est Daniel.
Moi je pense qu'il y a la conférence sur l'entente de mars. Ça va être, certains ont envie d'en faire une conférence nationale. Le président a recadrer les choses récemment. Mais ce que moi je voulais dire pour terminer, si ce sont mes derniers mots, moi je voyage beaucoup au Mali. Il y a une joie de vivre des populations qu'on ne rapporte pas souvent. Les gens sont heureux au Mali. Vous allez à... Moi je vous parle de Sanankroba, c'est vrai que j'ai des amis là-bas à Boucher, etc. Vous allez à Bougouni, vous allez à Kolokani. Les gens sont heureux de vivre malgré les difficultés. Le Malien, ce n'est pas... Le Malien que moi je rencontre n'est pas un homme triste. Et ça, je voulais... J'avais envie de terminer là-dessus. Parce qu'il faut pas penser que tout est gris ici.
Clément Lamelé.
La perspective, ça c'est la jeunesse malienne. Et vous savez, je pense que le défi de 2017, ça sera l'emploi des jeunes au Mali. Il faut qu'on cesse de penser ou de croire que cette jeunesse n'est pas capable et de penser que cette jeunesse n'est pas dynamique. Je vais terminer là-dessus pour dire que nous sommes en face d'une première génération malienne qui est plus dynamique, qui est plus interactive et qui est plus intelligente que ses aînés. Et je
juste
pense que 2017, ça sera
bon, je pense que ça va être davantage le défi sécuritaire et puis la question migratoire à laquelle il faut apporter une réponse sûre et puis tant au pays de départ qu'au pays d'arrivée.
Oh, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la mise en œuvre, il y avait Seydou Mbo, à la régie vidéo Gagné Kanté, réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. À demain.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mandi.
Chenne Berry, c'est qui qu'il faut pas.